Le journal est présenté par Thomas Pontillon.
Bonsoir. Un discours à mi-chemin entre le président et le candidat. François Hollande s'est exprimé aujourd'hui sur la démocratie et le terrorisme. L'occasion d'esquisser le début d'une campagne, peut-être, on va l'entendre. Après avoir fait le tour des médias et lancé un appel aux élus, Nathalie Kosciusko-Morizet obtient ce soir suffisamment de parrainages pour se lancer dans la course de la primaire à la droite et du centre, sixième candidat. Troisième journée d'audience au procès Jérôme Cahuzac et un duel aujourd'hui entre l'ex-ministre du budget et son banquier suisse. L'un et l'autre se renvoient la balle pour le transfert du compte Helvète vers Singapour. Au Japon, les bulletins de vote de la présidentielle seront peut-être recomptés. En tout cas, l'opposant Jean Ping dépose ce soir un recours devant la Cour constitutionnelle, même s'il doute de son indépendance. Il réclame un recomptage des voix dans le fief de son concurrent, Ali Bongo. Mais d'abord, on vient de l'apprendre, l'enquête sur la voiture remplie de bonbonnes de gaz retrouvée ce week-end à Paris s'accélère. Trois femmes ont été interpellées ce soir près d'une gare dans l'Essonne à Boussy-Saint-Antoine. L'une d'entre elles est la fille du propriétaire de la voiture. Elle était activement recherchée ces derniers jours. Elle a été touchée par balle lors de l'opération de police. Un des membres des forces de l'ordre a lui aussi été blessé à l'arme blanche par l'une des complices de la jeune femme. Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, devrait s'exprimer dans les minutes à venir. Le terrorisme est l'un des sujets évoqués aujourd'hui par François Hollande. Il a prononcé aujourd'hui un discours censé lancer la reconquête selon ses partisans. Le thème, la démocratie face à ces attaques barbares. Une prise de parole d'une heure truffée de piques contre la droite et l'extrême droite. Le chef de l'État se pose en seul garant de l'État de droit.
Il y a toujours un sens au combat. L'idée de patrie n'est pas une idée simplement issue du passé. C'est de savoir toujours pourquoi nous nous battons et la France s'engage pour la liberté. Ce principe simple, essentiel, certains ne l'ont pas compris. Je les entends, ils battent les estrades, recourent à des surenchères pour mieux se distinguer à l'intérieur de leur camp. En ces matières, je constate que l'imagination est sans limite et prend des tours inquiétants. Pour défendre le droit, voilà qu'il faudrait commencer par l'ABC. Recourir à des internements administratifs dans des camps, enfermer les suspects sans discernement et sans jugement. J'entends même qu'ils veulent ressusciter la Cour de sûreté de l'État, revenir sur l'indépendance de la justice, la séparation des pouvoirs, renier les droits de l'homme et la convention internationale qui les soutient, supprimer le regroupement familial en rupture avec le droit européen, établissant ainsi un lien entre immigration et terrorisme. Ces reniements seraient autant de renoncements, mais sans nullement assurer la protection des Français.
Et on va tenter d'analyser ce discours de François Hollande avec notre invité Cyril Graziani. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes grand reporter au service politique de France Inter. Vous suivez l'Élysée depuis 2012. Vous êtes aussi l'auteur du livre Le premier secrétaire de la République aux éditions Fayard qui vient de sortir. Alors aujourd'hui, on nous annonçait un discours très important, celui de la reconquête. Est-ce que c'était le cas ?
Alors François Hollande, ce que je racontais dans le livre il y a quelques semaines, François Hollande disait « Le candidat sort de mon corps ». Bah, on peut le dire clairement, aujourd'hui, on a vu le candidat à l'œuvre. Et ça, c'est vraiment indéniable.
Ce qui sort, c'est surtout les piques aujourd'hui qui ont été adressées aux différents concurrents pour la présidentielle.
Pas que, c'est aussi une vision de la société. C'est vraiment François Hollande, père de la nation, président au-dessus des partis. Je pense que ce sera la ligne directrice qu'il mettra en œuvre en vue de la présidentielle. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde en a pris pour son grade. Nicolas Sarkozy sur la présomption d'innocence, Alain Juppé sur l'identité heureuse ou malheureuse, et même Emmanuel Macron, puisqu'à un moment, François Hollande a dit « Ah, ce n'est pas facile l'élection, il faut la mériter, s'y préparer ». Et là, on a tous compris qu'il parlait de son ex-ministre de l'économie.
Alors, la candidature de François Hollande, ce n'est pas un projet qui sort comme ça du chapeau. Ça fait un moment qu'il y pense, il y a notamment l'opération H dont vous parlez dans le livre.
Alors c'est une petite blague qui circule dans les cercles socialistes, opération H comme Hollande. La candidature pour 2017, François Hollande, on le sait, il y songe depuis un certain temps, peut-être même depuis 2012. Je rappelle dans le livre ce que dit Jean-Christophe Cambadélis, une phrase de Mitterrand qui conseillait à tout le monde, une fois que vous êtes élu, pensez à la réélection. Je pense que François Hollande, il est orienté vers 2017 depuis un certain temps et il fait tout, il a tout mis en œuvre justement pour que cette candidature soit possible. Après, il veut être candidat. La question, et on le saura dans les prochaines semaines, c'est est-ce qu'il peut être candidat ?
Justement, qu'est-ce qui peut le pousser aujourd'hui à être candidat ? On connaît les sondages, on sait les difficultés qui vont s'annoncer. Effectivement, il y a eu, c'est un fin tacticien aussi avec le remaniement du gouvernement, refaisant revenir des écolos. Qu'est-ce qui le pousse aujourd'hui à vouloir être candidat ?
La certitude qu'il a raison sur toute la ligne. Il pense mener une politique comme il faut la mener et que peut-être cette politique, il n'a pas pu la mener au bout. Donc, il veut poursuivre, il veut continuer parce qu'il pense que sa vision de la société est la bonne.
Alors, dans votre livre, le premier secrétaire de la République, vous revenez donc sur les 4 années de François Hollande à l'Élysée et vous le décrivez en tant que communicant et même la communication passe avant la politique parfois, c'est ce que vous dites.
Et il y a une phrase qui, je trouve, résume parfaitement ce quinquennat et ce premier secrétaire de la République, c'est quand François Hollande dit « la communication, c'est moi ». C'est lui, le communicant, le principal communicant, c'est lui. Parce qu'il faut savoir que François Hollande a toujours eu un problème avec les communicants, et notamment depuis la campagne de Lionel Jospin perdue en 2002. On avait beaucoup dit à l'époque que c'était une campagne axée sur la communication avec Euro-RSCG et que c'était une communication coupée du Parti Socialiste et qui avait peut-être conduit à la perte et à la défaite de Lionel Jospin. François Hollande, lui, il a toujours eu un problème à s'entourer de communicants. C'est pour ça qu'il considère que lui est le meilleur communicant. Après, à un moment, il faut revenir à la réalité. Et oui, il a eu besoin de communicants. La question, c'est de savoir si est-ce qu'ils ont vraiment un impact aujourd'hui. Est-ce qu'ils connaissent, est-ce qu'ils contrôlent véritablement le président.
Et est-ce que ça le brouille pas, puisque finalement, le moment où il a été le plus clair, le plus président, comme vous dites, c'est au moment des attentats où pour le coup, il y avait presque quasiment pas de filtre entre le président et ses déclarations.
Et c'est ce que je raconte aussi. Ce qui est surprenant, c'est la réaction qu'il a eue, ça c'est Julien Drey qui me l'a confié, et qui a confié, c'est François Hollande qui en avait parlé à Julien Drey, qui est un de ses amis de 30 ans, il lui a dit « les attentats c'est la seule fois où j'ai eu la paix ». Ce qui en soi est une phrase qui peut paraître cynique, qui peut paraître assez terrifiante, mais qui raconte quelque chose aussi, c'est-à-dire qu'au moment des attentats, que ce soit en janvier ou au mois de novembre, François Hollande a pu présider comme il le souhaitait, a pu présider comme il le sentait. Il n'y avait pas le Parti Socialiste, les frondeurs qui poussaient derrière, qui lui mordaient les chevilles. Il n'y avait pas la droite qui tapait à bras raccourcis sur la politique gouvernementale. En mois de novembre, il y a eu un délai de décence qui n'a pas tellement été respecté, mais au mois de janvier, il était tranquille. Il pouvait véritablement se poser en président, ce qu'il n'a pas eu tellement l'occasion de faire, et peut-être de son fait, mais aussi les circonstances.
Alors dans le livre, vous parlez aussi de l'entourage, donc l'équipe de communicants. Vous revenez aussi sur les couacs du début du quinquennat, la déchéance de nationalité et le volte-face de François Hollande. Et quand on vous lit, on se demande au bout d'un moment, qui est François Hollande en fait ?
Ah bah ça, personne ne le sait.
Est-ce que
Peut-être que le seul à le savoir, c'est lui-même. C'est pour ça, parce que quand on a beaucoup glosé ces dernières semaines sur des livres de confidences. Moi, mon livre n'est pas un livre de confidences. J'ai souhaité que ce livre soit une analyse clinique du quinquennat. Donc, essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui il est dans cette situation-là. Donc, quand on prétend que François Hollande a fait des confidences, un, c'est se méprendre sur qui est François Hollande, parce que François Hollande ne se confie pas. François Hollande ne dit jamais qui il est. Même les amis qui le connaissent depuis 30 ans vous disent on ne sait pas ce qu'il pense véritablement. Et puis deux, considérer que François Hollande nous a fait des confidences, c'est méconnaître le personnage, parce que François Hollande parle à une dizaine, une vingtaine de journalistes. Donc ça ne s'appelle pas des confidences quand on les fait à une vingtaine de personnes. Ça s'appelle du storytelling.
Est-ce que vous lui avez envoyé ? Est-ce que vous avez une réaction de la part du président ?
J'ai cru comprendre qu'il avait modérément apprécié. Il faut le comprendre aussi, parce que être premier secrétaire de la République, en tout cas baptisé comme tel dans mon livre, c'est montrer qu'on n'a pas réussi à être président et qu'on est resté chef de parti. Pour moi, le premier secrétaire de la République, c'est la synthèse la plus aboutie de François Hollande, mais peut-être la moins réussie.
Cyril Graziani, journaliste à France Inter et auteur du livre « Le premier secrétaire de la République » aux éditions Fayard. Merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. Toujours en politique, un sixième candidat à la primaire de la droite et du centre, ou plutôt une candidate, la seule d'ailleurs, Nathalie Kosciusko-Morizet, annonce ce soir qu'elle réunit suffisamment de parrainage pour se présenter. Elle l'a dit au journal de 20h de France 2.
Moi, j'ai fait un appel aux adhérents, aux élus, aux parlementaires. C'est vers eux que je me suis tournée. J'ai reçu et j'ai apprécié des messages de sympathie, notamment d'Alain Juppé, très tôt dans la campagne, qui, en disant au mois d'août, nous autres, les candidats qui avons déjà nos parrainages, nous n'avons peut-être pas besoin d'en avoir toujours plus, a libéré un certain nombre de parrainages. J'ai apprécié D'autres appels qui ont été lancés, je pense par exemple à Valérie Pécresse la semaine dernière, qui elle aussi a envoyé des messages de sympathie. Et je le dis en particulier, c'est appréciable parce que on dit toujours que les femmes s'entraident pas entre elles. Et moi, j'ai apprécié en particulier ce message-là.
Alors.
Bon, et puis il y en avait d'autres qui étaient plus tardifs et d'autres comprenaient bien que ils volaient surtout au secours d'un mouvement qui était déjà bien engagé.
Nathalie Kosciusko-Morizet qui rejoint donc Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, Bruno Le Maire, Jean-François Copé, François Fillon et Jean-Frédéric Poisson pour la primaire de la droite et du centre. L'État réclame un dialogue avant toute décision sur l'éventuelle fermeture de l'usine d'Alstom à Belfort. Hier, le constructeur ferroviaire a annoncé son intention de transférer les quelques 400 salariés vers un autre site en Alsace. Réplique immédiate de Bercy, actionnaire auteur de 20%, qui a donc convoqué aujourd'hui le patron d'Alstom pour lui faire part de son incompréhension. Troisième journée d'audience pour Jérôme Cahuzac dans son procès pour fraude fiscale et blanchiment. Aujourd'hui, le tribunal correctionnel cherche à savoir qui, de l'ex-ministre du budget ou de son banquier suisse, a décidé de dissimuler encore un peu plus son compte caché en l'envoyant de la Suisse vers Singapour, Florence Turm.
Curieux contraste entre la complexité des montages financiers participant à l'évasion fiscale et la facilité déconcertante avec laquelle les outils nécessaires semblent disponibles sur la place suisse, en tout cas à l'époque de l'affaire Cahuzac. En mars 2009, Jérôme Cahuzac souhaite que le fameux compte Birdie soit moins visible. Il a gagné en responsabilité politique, acquis même le statut de PEP, personnalité exposée politiquement dans les documents internes de la banque Rail. Cette plus grande confidentialité passera par le transfert des fonds à Singapour, où le groupe est en train d'ouvrir une filiale. Dans un premier temps, les fonds placés en Suisse ne sortiront pas du pays et du jour au lendemain, le nom de Jérôme Cahuzac n'apparaît plus sur les livres de compte. C'est une société panaméenne qui devient un éphémère donneur d'ordre. Jérôme Cahuzac a choisi Pinderley, le premier nom sur la liste proposée par la banque. Des listes de sociétés immédiatement disponibles car préconstituées. François Rail livre au passage le mode d'emploi. Chacune coûte seulement 1 000 $ par an, le prix d'une licence d'incorporation. En l'occurrence, c'est un cabinet d'avocats panaméen basé en Suisse qui propose la première. D'autres structures suivront, notamment Serman Group aux Seychelles, que Jérôme Cahuzac affirme avoir découvert seulement quand il lui a fallu rapatrier ses avoirs.
Il avait jusqu'à ce soir pour saisir la Cour constitutionnelle. C'est désormais chose faite. Jean Ping a déposé un recours pour contester les résultats de l'élection présidentielle au Gabon. Le candidat malheureux vise notamment le fief de la famille Bongo où les résultats lui sont particulièrement défavorables, Aurélien Tirard.
Jusqu'au bout, les proches de Jean Ping hésitent et puis finalement se résignent à déposer le recours. Pour contester les résultats jugés litigieux, le combat se portera devant les institutions comme l'ont demandé la France, l'Union européenne, l'Union africaine et les Nations unies. Devant la Cour constitutionnelle gabonaise, les deux adversaires de l'élection vont se rendre coup pour coup puisqu'Ali Bongo va lui-même contester les résultats dans le fief électoral de Jean Ping. Désormais, selon le calendrier officiel, la Cour a 15 jours pour proclamer définitivement le nom du nouveau président gabonais, ce qui laisse peu de temps pour examiner ces deux recours. De son côté, l'Union africaine, selon le ministre gabonais des Affaires étrangères, a reporté sine die sa mission sur cette crise électorale. Il s'agit d'un revers pour la France qui comptait sur cette médiation africaine pour ne pas trop s'impliquer dans les affaires de son ancienne colonie.
En Turquie, la purge continue et s'attaque cette fois à l'éducation. 11 500 professeurs sont suspendus ce soir. Ils sont suspectés de soutenir le PKK, le Parti des travailleurs kurdes. Ils s'ajoutent aux dizaines de milliers de personnes limogées dans le domaine de la police, la justice, mais aussi la fonction publique après le coup d'État raté le 15 juillet dernier. En Afghanistan, les talibans continuent de gagner du terrain. Ils sont entrés dans la ville de Tarinkot, capitale d'une province au centre du pays. Les autorités locales ont appelé Kaboul à l'aide en vain et face aux combattants islamistes, la police a en grande partie fui la ville. Des renforts sont désormais en chemin, mais en attendant, le gouvernement craint un assaut contre la prison où les insurgés pourraient libérer d'autres talibans prisonniers. Et puis c'est l'info de la soirée, Bernard Cazeneuve déclare à l'instant que les femmes interpellées ce soir dans l'Essonne préparaient vraisemblablement de nouvelles actions terroristes violentes et imminentes. Ce sont trois femmes qui ont été arrêtées près d'une gare tout à l'heure aux alentours de 19h à Boussy-Saint-Antoine. L'une d'entre elles est la fille du propriétaire de la voiture remplie de bonbonnes de gaz retrouvée le week-end dernier à Paris. Elle a été touchée par balle. L'un des policiers Montpellier, un policier a aussi été blessé à l'arme blanche par l'une des complices de la jeune femme. On termine avec la météo. Grand soleil demain sur toute la France, sauf sur le Finistère où il va pleuvoir demain matin. Les températures resteront quand même agréables, au moins 20 degrés au réveil. L'après-midi, les nuages vont tous disparaître. Début de week-end sous le soleil avec des températures qui resteront estivales. C'est la fin de cette édition préparée ce soir avec Brice Garcia. Et puis notez que demain, France Culture vous proposera une journée spéciale à l'heure américaine, deux mois avant les élections présidentielles. Nous vous raconterons l'Amérique d'aujourd'hui à travers des reportages, des analyses et des témoignages.